Cette semaine et dans cette série, on parle et on brûle pour devenir missionnaires et de vrais évangélisateurs. On parle de mission et puis on rappelle aussi que la mission n'est pas impossible. Je reçois cette semaine et je salue très vite Thomas Bellel. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors vous avez écrit ce premier livre et je crois que vous préparez la sortie d'un deuxième livre.
Qui est même déjà sorti d'ailleurs.
Qui est déjà sorti, voilà. Donc je ne suis pas sur le thème de l'unité.
Exactement. Ouais,
voilà. Donc j'ai fait le choix de la mission cette semaine. Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser aux éditions des Béatitudes. Parmi tous les chapitres, vous décrivez, et c'est excellent, vous décrivez les sept fausses bonnes raisons au fond pour ne pas évangéliser, au fond les bonnes raisons pour éviter l'évangélisation qui est toujours une audace, une prise de risque. La première est je n'ai pas le temps. N'ai pas le temps.
C'est le grand problème aujourd'hui.
La vie va vite, hein, le travail, la famille, les enfants, les activités, peut-être des engagements aussi dans des groupes de prière. Alors comment prendre le temps de partir évangéliser dans les villes et les villages, Thomas? Une fausse excuse,
hein? Oui, alors première chose, notre temps c'est déjà un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Et souvent, en fait, moi, ce que j'expérimente, c'est quand on essaye, entre guillemets, de lui rendre, c'est-à-dire de lui offrir notre temps, nos activités, tout ce qu'on vit, de l'offrir comme une offrande, comme on consacre tout ce qu'on fait, même ce qui nous paraît anodin, au Saint-Esprit. En fait, il peut l'utiliser même de manière missionnaire. Et d'une certaine manière, souvent, parfois, on se dit ça aussi pour la prière, j'ai pas le temps de faire l'oraison, etc. Souvent, quand on veut vraiment faire quelque chose pour Dieu, il nous donne l'occasion de le faire. C'est lui qui va arranger notre planning et notre emploi du temps. Après, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas tous le même appel. Ça, c'est important de se le dire. On a chacun notre vocation, on a chacun notre vie, nos engagements. C'est important de les assumer. C'est ce qu'on appelle notre devoir d'État. C'est important non plus de pas être dans le rêve, de se dire, si j'ai une lourde vie de famille, que j'ai 8 personnes à charge, de dire je vais faire de la mission à plein temps, peut-être que c'est aussi, on n'est pas ancré dans la réalité. Mais n'empêche que dans notre réalité, souvent, déjà, Dieu nous donne beaucoup de petits moments dans lesquels qu'on peut rendre disponible à la mission, que le Saint-Esprit peut utiliser. Et puis, de dégager même, si vous voulez, même pour des questions comme une mission d'évangélisation de rue, on peut en faire même assez peu. Le Seigneur donnera pas mal de fruits. On peut se bloquer, sur un week-end, un petit moment, une heure sur le samedi, rejoindre une équipe, faire de l'évangélisation de rue de manière plus modeste. Vous pouvez le faire avec des personnes autour de vous, prendre des temps de prière, aller dans votre quartier, sans forcément que ça prenne énormément de temps. Mais le temps qu'on offre à Dieu, que ce soit dans la prière, dans la mission, etc., Dieu va l'utiliser, il va le faire fructifier. Donc tout ce que vous donnez à Dieu en temps, je sais pas comment dire. Et moi, je l'ai vu pour moi. Parfois, il y avait des moments où je me disais, il faut pas que je fasse de la mission d'évangélisation de rue. J'ai des examens et tout ça. Alors, je vous dis pas qu'il faut, s'il y a des étudiants qui écoutent, bosser vos examens, il faut réviser. Mais des petits moments où je sentais qu'il fallait quand même que j'y aille. Et derrière, en fait, le Seigneur bénissait le reste de mes activités. C'est vraiment chercher d'abord le royaume de Dieu. Et après, le Seigneur se débrouille avec ça.
Alors, je poursuis parce que le temps nous est compté dans l'émission, Thomas. Parmi les sept fausses bonne raison pour ne pas partir, je dirais, et évangéliser et évangéliser à temps et à contre-temps, je n'arrive pas à parler de ma foi. Donc on cherche toujours des excuses au fond.
Ouais, mais ça en même temps je peux comprendre parce que c'est vrai que
je suis complexée, j'ai peur.
Ouais, et puis on peut avoir intériorisé une forme de parfois de laïcisme, de dire la foi est du domaine de l'intime, etc. Et parfois on sait pas trop comment mettre des mots là-dessus. Et je connais parfois des chrétiens qui ont une vraie ferveur et tout ça, j'ai pas du tout envie de le juger, mais qui ont comme du mal à sortir ça. Et ça peut être, on peut faire l'exercice soi-même déjà dans sa chambre, d'essayer de poser des mots, d'essayer de réfléchir, d'avoir un temps d'introspection, d'essayer de poser des mots sur sa relation avec Dieu, sur ce qu'on vit avec Dieu, sur notre vie avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut le formuler? Comment est-ce que, si vous voulez, d'une certaine manière, on bâtit le témoignage qu'on va ensuite transmettre aux autres? C'est ça l'idée, finalement, c'est raconter les merveilles de Dieu. Pour ça, ça implique de se rendre compte des merveilles de Dieu dans notre vie. Et parfois, avec le temps qui coule, qui va vite, etc., on n'a pas forcément conscience de ce que Dieu fait pour nous. Donc c'est vrai que ça implique de se dire, essayer de pouvoir poser des mots là-dessus, poser des mots sur notre relation avec Dieu, des mots même. Parfois, c'est des mots que nous offre l'Église, que nous offre la Bible, de se dire, qu'est-ce que je peux dire sur qui est Dieu, etc. Donc on peut s'exercer, si vous voulez, avant d'y aller.
Alors, toujours dans toutes ces mauvaises excuses pour éviter peut-être de se risquer, hein, au fond, de se risquer dans la mission, je ne suis pas compétent ou je ne suis pas compétente. Alors là aussi, c'est une grosse excuse, hein, Thomas Bellel.
Ouais, c'est vrai. Et puis bon, ça c'est normal parce que, bon, au fond, personne n'est compétent pour faire des trucs pareils, annoncer le royaume de Dieu et tout ça.
Le seul qui le soit, c'est Jésus lui-même.
Mais bien sûr, c'est ça, c'est Dieu. C'est Dieu le vrai missionnaire, fondamentalement. C'est lui qui est missionnaire, c'est lui qui envoie le... Voilà, c'est le Père qui envoie le Fils, le Père, le Fils qui envoie l'Esprit. Donc, nous, on se coule là-dedans, mais il n'a pas besoin de nous, mais c'est comme s'il souhaitait avoir besoin de nous. Il nous associe à cette mission. Il compte sur nous et il nous donne les armes pour le faire. Donc, si vous êtes baptisé, vous êtes prêtre, prophète et roi. Vous êtes prêtre, c'est-à-dire que vous intercédez auprès de Dieu pour les gens, vous êtes prophète, vous portez la parole de Dieu dans le monde, vous êtes roi, vous participez à faire avancer le royaume de Dieu. Donc, tout le monde est compétent, Dieu nous rend compétents. J'ai eu déjà l'occasion de le dire, mais souvent dans la Bible, on voit que Dieu, il appelle parfois des petits, des faibles, des gens qui paraissent pas forcément compétents, qui n'ont pas les capacités. Mais voilà ce que Dieu dit au moment du choix du roi David, où on pourrait croire que ça va être son grand frère qui est plus grand, plus fort, plus âgé. En fait, non, c'est Dieu regarde au cœur. Ce qui compte, c'est votre cœur. Si vous avez un cœur où vous avez ce désir de parler de Dieu, Dieu ensuite, il va vous utiliser et il va déployer parfois des dons, des capacités en vous que vous ne soupçonniez pas. Et il va les utiliser, il va les faire fructifier. Vous déposez vos 5 pains et vos 2 poissons et lui, il va vraiment les faire fructifier pour la mission. Donc, personne n'est compétent, mais d'une certaine manière, tout le monde l'est avec Dieu.
Alors, le numéro 4, je ne suis pas un état. Vous donnez aussi l'exemple, là, page 52, de l'apôtre Paul, qui décrit dans ses lettres et dans les actes des apôtres, avoir connu de grandes épreuves et beaucoup de privations. Vous écrivez, il a eu froid, il a eu faim, il a manqué de sommeil, il a été flagellé, au moins à 3 reprises, et on ne compte plus le nombre de fois qu'il est passé par la case prison. Est-ce que cela l'a empêché d'évangéliser? Bien sûr que non, au contraire. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul était conscient et c'est dans un cœur brisé, un esprit humilié que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. C'est une belle figure, hein, Paul, qui nous rappelle que même dans cette faiblesse et cette fragilité, le missionnaire ne s'arrête pas.
Bien sûr, et en même temps de se dire, bon, c'est important quand même, voilà, ce qu'on appelle la vertu de prudence, permettre aussi de se connaître et pas non plus de se culpabiliser, de se dire, on est appelé à être missionnaire aussi en fonction de notre âge, de notre état, de là où on est. Moi, je sais que j'aurai moins d'énergie missionnaire que d'autres. Voilà, typiquement, j'ai des troubles de sommeil carabinés depuis un bon moment. Voilà, il y a des personnes qui auront peut-être plus de possibilités que moi. Donc c'est important de réfléchir aussi à notre état, de faire preuve de discernement et tout ça, mais de se dire, malgré ça, le Saint-Esprit peut quand même l'utiliser, peut quand même nous utiliser, et c'est pas une excuse a priori. Il faut le prendre en compte, mais à travers ça, Dieu nous utilisera quand même.
Alors ce qui est intéressant, on poursuit toujours, vous donner un peu, c'est vraiment un petit guide, hein. Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser. On cherche souvent des excuses, on se freine pour éviter peut-être de se rendre ridicule et de ne pas être à la hauteur dans sa mission. Ce n'est pas mon charisme. Est-ce qu'on doit avoir un charisme pour partir évangéliser son prochain? Vous en parlez dans votre livre.
Ouais, c'est pas mon truc, c'est pas mon charisme.
Puis j'ai pas de charisme, c'est pas pour moi, hein, c'est pour lui.
Ouais, c'est ça. Alors après, ce qui est vrai, c'est que le Seigneur donne des dons plus particuliers des talents qu'il faut faire fructifier, qu'il faut essayer d'identifier. Et donc, encore une fois, voilà, je pense que la première chose, c'est qu'on a tous un appel missionnaire. On est tous censés être missionnaire. Après, ça se révélera peut-être de manière assez différente. Donc, ce que je dis un peu dans mon livre, on n'est peut-être pas forcément tous appelés à prêcher avec un mégaphone à des grandes assemblées de milliers de personnes. En revanche, on a vraiment tous, en tant qu'ayant rencontré le Christ, on a tous à témoigner d'une certaine manière, à rendre compte de l'espérance qui est en nous, un peu comme dans la Bible, des personnes rencontrent Jésus-Christ, la Samaritaine, directement, elle va en parler autour d'elle. Et donc, si vous voulez, après, la question, ça va être de dire, avec mon charisme, comment est-ce que je vais le faire? Mais cet appel missionnaire, cet appel à évangéliser, c'est sûr qu'il est là. Ça, il n'y a pas de doute.
Alors, je n'aime pas forcer les gens. Alors si c'est une nature, c'est aussi un des éléments qui peut aussi freiner.
Bien sûr, et ça, effectivement, c'est la distinction entre prosélytisme et évangélisation. Et c'est de se dire, voilà, parfois on a l'impression qu'on va embêter les gens et tout ça, et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut pouvoir respecter la liberté des personnes. Ça, c'est certain. Quand on va les voir, il faut que L'idée, c'est pas d'avoir une sorte d'emprise sur eux, d'essayer de les manipuler, d'essayer de les contrôler ou je sais pas quoi. Et si jamais ils ont pas envie de parler de Dieu, ben on secoue la poussière de nos sandales et puis on va voir ailleurs. Mais c'est de se dire, avant tout, ben voilà, avant tout, c'est Dieu qui libère du péché aussi. Donc même sur la, un petit peu sur la conception qu'on peut avoir de la liberté. Oui, donc on, effectivement, c'est important de nous adapter à l'ouverture du cœur que la personne va avoir, la disponibilité qu'elle va avoir. Si elle ne veut pas nous parler, on l'accepte complètement. Mais c'est de se dire aussi, fondamentalement, notre première liberté, c'est la liberté d'accepter Dieu et de le vivre, vivre avec lui en fonction voilà, de son plan pour nous. Et donc, à l'inverse, l'esclavage, c'est d'abord celui du péché, quoi. Dont celui dont Jésus-Christ nous libère.
Alors, tout ce qu'on peut entendre dans les fausses ou bonnes raisons de ne pas évangéliser, l'évangélisateur, en fait, sa passion première, c'est la passion des âmes en vue de l'éternité et en vue du royaume.
C'est ça.
C'est ça votre moteur, Thomas ?
Oui, c'est ça. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on en parle peut-être un peu moins, parce que peut-être qu'il y a eu des époques où on en parlait, mais voilà, peut-être, je dirais pas mal, parce que, mais voilà, c'est de se dire, c'est vrai que notre vocation, c'est le ciel, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. Cette vie sur Terre peut être très belle, parfois aussi avec des épreuves, des combats, tout ça. Tout ça, c'est une préparation, d'une certaine manière, à ce qui va se passer après.
Est-ce qu'on peut parler aussi de cette préparation comme un véritable combat ici-bas ?
Bien sûr, oui, un combat.
L'éternité parce que... n'est pas gagnée ?
Alors, d'une certaine manière, moi, je vais vous dire que oui. Je vais vous dire quand même que oui, parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Donc ça, c'est important de se dire que le mal a été vaincu, que Satan a été vaincu, mais voilà, il y a comme un sursis qui lui est donné de son action pendant le temps sur Terre, qui est juste un sursis, qui est vraiment juste un sursis. C'est-à-dire, c'est important de se dire Jésus-Christ a vaincu le démon à la croix. Donc c'est d'abord une bonne nouvelle qu'on annonce. Mais c'est vrai que tant qu'on vit sur Terre, il y a du combat, il y a encore la maladie, il y a encore le péché, il y a encore Satan qui vient nous titiller.
Il y a des âmes qui peuvent se perdre aussi.
Bien sûr, ça c'est très important de se dire que... Et ça encore, si vous voulez, c'est logique par rapport à l'amour de Dieu. C'est que,
donc c'est tout l'enjeu de la mission.
C'est tout l'enjeu de la mission, c'est-à-dire que Dieu nous offre gratuitement son amour, il veut qu'on passe l'éternité avec lui, mais il va jamais forcer personne. Donc... chacun a la possibilité en liberté de choisir de passer l'éternité sans Dieu. Donc ça, c'est une vraie chose qu'il faut avoir en tête, encore une fois, sans se culpabiliser, mais se dire que effectivement l'enfer existe, que Satan existe, et que c'est une vraie possibilité pour les gens de choisir l'enfer. Et parfois, des personnes me disent « Oui, mais est-ce que tout le monde, au final, ne va pas se convertir, choisir Dieu ?» Bon, peut-être, mais en même temps, j'ai envie de dire, dans l'Évangile, les gens ont vu Jésus, ils ont vu Dieu lui-même, ils ont vu Jésus-Christ, et ça les a pas empêcher certains de le refuser, de le mettre sur la croix. Donc, ne jouons pas d'une certaine manière avec la vie éternelle des personnes. Mettons, entre guillemets, toutes les chances de leur côté en leur proposant dès aujourd'hui de pouvoir déjà se positionner en vue de la vie éternelle.
Alors, au fond, en résumé, le missionnaire qui évangélise, il évangélise pour montrer la direction de la vie éternelle et au fond du ciel.
Oui, c'est ça, Jésus-Christ qui est le seul chemin pour la vie éternelle, donc, c'est celui qu'on montre.
Alors, osons être éveillés, réveillés peut-être, cette semaine, aujourd'hui, demain, après-demain, réveillés dans sa mission, qui est une mission propre. Mmh. Thomas Bellel, auteur de ce livre « Mission impossible », ce livre est véritablement un petit guide pour oser évangéliser en tout temps et en tout lieu, quelles que soient ses origines, quel que soit son profil, quelle que soit sa vocation. La mission, elle est ouverte à tous, elle est ouverte pour montrer cette direction de l'éternité. À demain. Merci.